C'est bon. L'Église contagieuse, c'est le titre de la série. Bon, vous avez certainement deviné qu'il y avait un sens là-dedans avec ce qu'on vit présentement, une espèce de phénomène mondial de contamination et tout ça. Là, nous, on s'est dit, écoutez, l'Église doit être contagieuse dans notre monde, l'Église doit se reproduire. Et on voulait en profiter aussi pour que nous, à l'Espoir, on puisse afficher nos couleurs. On est une église évangélique, une église chrétienne, une église qui adore Dieu, une église de convertis. Et dans les semaines qui ont passé, Yannick nous a prêché, Éric nous a prêché sur les couleurs qui font qui on est, nous, ici à l'Espoir. Puis aujourd'hui, on parle de contagion d'adoration. Comment se contaminer les uns les autres? Comment découvrir? Comment on peut être des adorateurs contagieux? Bon, c'est pas si évident que ça de définir c'est quoi un adorateur. C'est pas simple. Par exemple, je suis allé dans le Larousse, on disait rendre des honneurs à Dieu, à une divinité. Bon, ben franchement, moi je trouvais que c'était une définition un peu anémique quand on pense au Dieu qu'on connaît. Ben, rendre des honneurs, ça donne plus de « ouais, bon, petit Dieu, t'es super, lâche pas, t'es capable. » Mais non, ça manque un peu de coffre. La Bible, elle nous donne des mots forts. Elle nous donne des mots comme « s'abaisser, révérer, se soumettre », mais d'une façon vraiment la face à terre. Mais en même temps, elle nous donne aussi des mots comme « l'émerveillement, l'éblouissement, s'ébahir devant Dieu ». Adorer, c'est quelque chose qui ne se mesure pas avec des chiffres. On ne peut pas quantifier l'adoration dans une feuille Excel, par exemple. C'est difficile de traduire l'adoration avec des mots. C'est quelque chose qu'on vit, c'est un mouvement, c'est pas une émotion, mais ça génère des émotions. C'est un peu comme l'amour envers une personne. Tu sais, moi, j'aime ma femme, mais comment je vais vous le définir? Comment je vais arriver? Bien, venez nous voir ensemble, vous allez voir qu'il y a de l'amour. Puis c'est à peu près la meilleure définition qu'on peut donner. John Piper, dans son livre « La prédication et l'adoration », définit l'adoration en disant « L'essence de l'adoration, c'est l'expérience. » Oui, c'est l'expérience du cœur qui magnifie la beauté et la valeur de Dieu. Don Carson, un grand théologien de notre époque, dit que l'adoration, lui, c'est la réponse de notre être et de notre conscience envers Dieu, lui attribuant tout honneur et toute valeur. C'est dans le livre « Worship by the Book ». Un autre commentateur, Warren Worsby, dans son livre « The Real Worship », bon, mais là, on ne peut pas aller plus haut, « The Real Worship », l'adoration, c'est la réponse de tout ce que je suis. Esprit, émotion, volonté, corps, à tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu fait. Partout, hein, on voit, j'ai lu tellement de livres sur l'adoration, et chaque fois on voit que c'est une réponse. C'est une réponse à un Dieu fantastique, un Dieu tout-puissant qui nous amène vers l'adoration, mais c'est en même temps extrêmement complexe. Définir l'adoration, vivre l'adoration, la comprendre, il faut la vivre pour la comprendre. C'est une réponse qui nous engage tout entier. C'est notre être en entier qui est engagé dans la... C'est émotionnel, c'est rationnel aussi, mais c'est spirituel. Et il y a quelque chose de vraiment mystérieux à travers l'adoration, surtout l'adoration envers Dieu, et on va comprendre un peu plus tard pourquoi. La meilleure façon de comprendre un phénomène aussi complexe, c'est d'aller vers un témoignage. Comme je disais tantôt, tu veux savoir si j'aime vraiment ma femme, viens passer une semaine chez nous, tu vas voir. Ben, il y a un témoignage dans la Bible, c'est le chapitre 4 de l'Évangile de Jean, le témoignage de la Samaritaine, où on voit là-dedans vraiment une progression. Et ce matin, si on pouvait résumer un peu l'exposé, c'est à travers le chapitre 4 de l'Évangile de Jean, on va voir, attention, les trois vecteurs de contagion. On est dans le thème. Oui, oui. Mais vous allez voir, c'est pas juste pour faire des beaux jeux de mots, là. Il y a vraiment un lien bien intéressant. Bien, bien, bien intéressant. Fait que ce matin, on voit les trois vecteurs de contagion pour contaminer le monde puis être des adorateurs contagieux. Est-ce que vous êtes prêtes? Julie va nous lire l'essence du passage de ce matin, puis on va prier. Seigneur, on veut te dire combien... on t'aime. Oui, on t'aime, parce que tu nous as aimés le premier. C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es notre Dieu. On t'adore. On veut encore mieux t'adorer. Aide-nous ce matin, ouvre les yeux de notre cœur pour qu'on puisse comprendre ce que l'Esprit veut nous dire à chacun de nous. On est convaincu que ce matin, le Saint-Esprit veut parler à chacun de nous d'une façon très précise. Seigneur, parle, tes serviteurs écoutent. C'est en ton nom que nous prions. Amen.
Donc, la lecture de ce matin est dans l'Épître de Jean, chapitre 4, versets 1 à 15. Jean, chapitre 4, versets 1 à 15. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? » Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? » et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. »
Merci, Julie. C'est ma femme. Et je l'aime. Trois phases pour être un adorateur authentique. Contamination, premièrement. Incubation. Et finalement, la phase de contagion. On est dans la ville de Sichar. C'est pas très loin de Jérusalem, 70 km, j'avais fait mes petites recherches. Bon, la ville elle-même, on ne sait plus trop exactement où, là, ça fait quand même 2000 ans, mais le puits de Jacob, on a des idées. Fait que donc, à peu près 70 km, pour vous figurer, c'est à peu près la distance de Longueuil à Sorel, ou Longueuil-Granby, mettons, tu sais. Bon, 70 km, fait que c'est pas tant loin que ça, 15 heures à pied, j'ai regardé ça avec Google Maps. Quand même. Non, mais je fais mes petites recherches. Je me dis, OK, si tu voulais y aller à pied, ça prendrait combien de temps? Bon, il y a un rendez-vous, là. Il y a un rendez-vous qui a été orchestré. Un rendez-vous un peu comme un super blind date orchestré par Dieu lui-même. C'est une femme. On n'a aucune idée de son nom. Hein? Jamais on nous mentionne comment elle s'appelle. On sait, par exemple, que c'est une Samaritaine. On sait aussi qu'elle s'en vient puiser de l'eau. Il est midi, on dit la sixième heure, c'est à partir de 6 heures le matin, on en rajoute 6. Il est midi, on est au Moyen-Orient, il fait chaud. Hein, on a connu ça il n'y a pas longtemps. Il a fait chaud, bien imaginez. Et là, ben, Jésus s'assied au bord du puits et attend. Il est là, il est seul. Ses disciples sont partis chercher de la nourriture. Puis lui, ben, il est assis. Puis il fait chaud. Le premier principe de la contamination, c'est de comprendre que c'est un sens unique. Il y a un sens unique là-dedans. Là. C'est, bon, on connaît Jésus. Il n'y a pas grand-chose qui échappe. Et aussi, Jésus faisait toujours l'œuvre du Père. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 5, le verset 17, Jésus dit, « Mon Père agit jusqu'à présent, bien, moi aussi j'agis. » C'était toujours l'œuvre du Père à travers le Fils. Et Jésus savait ce qui allait se passer. Il n'est pas... Jésus connaissait Judas déjà d'avance. Il savait qu'il s'en allait vers la croix. Il connaissait ce qui se passait dans le cœur des gens. Il sait même les détails les plus intimes de cette femme-là, comme on va le voir un peu plus tard. Pas de secret. Qu'est-ce que Jésus fait là? Il attend. Il n'attend pas un verre d'eau. Il attend quelqu'un. Il attend cette femme-là. Verset 6 hein, de Jean 4. « Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Un « donne-moi à boire » assez figuratif. Pas tant « j'ai soif, donne-moi à boire » que « est-ce que tu peux vraiment me donner à boire, toi? » Et on va le voir dans le discours que Jésus échange avec elle. C'est un peu comme... Bon, on a parlé beaucoup du virus, et puis là, à un moment donné, on est comme, il y a comme un débordement. Là, on en parle tout le temps. Mais peu importe le virus, tu ne peux pas le pogner si tu restes chez vous tout seul. C'était l'idée du confinement. Et pour ce qui est de l'adoration, c'est la même chose. On ne peut pas devenir un adorateur si on reste chez nous. Il y a seulement que le Saint-Esprit, seulement que Jésus qui peut le transmettre. Et autrement dit, si je désire être un adorateur contagieux, je dois absolument comprendre que tout commence avec un rendez-vous, que tout commence avec un rendez-vous divin dont seul Dieu est l'initiateur. Tu ne peux pas t'en sortir autrement. C'est un sens unique, c'est exclusif. Si Dieu n'initie pas l'adoration, je l'adorerai juste jamais. Juste jamais. On l'a vu la semaine passée dans le discours sur la conversion avec Yannick. Jean, chapitre 6, verset 44. « Nul ne peut venir à moi. » Et le « nul » est assez absolu, merci. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. » Romains, chapitre 3, verset 11. « Nul, ouais, on est des nuls. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. » Et là, ben, on va varier un peu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Bon, tu vas me dire, pourquoi c'est comme ça? C'est un problème d'ego. Il y a un problème d'ego. Le problème est profond. Le problème est viscéral. La vérité, c'est qu'on est tous des adorateurs. Le problème, c'est l'objet de notre adoration. On est, des adorateurs de nous-mêmes. On s'aime, mais... C'est clair qu'on va adorer le moi quand il est un héros, on va adorer le moi quand il est un vainqueur, mais on va aussi adorer le moi quand il est une victime, parce qu'on voudrait être au centre de l'univers de tout le monde. On aimerait que tout le monde se dirige vers nous et qu'il nous console. Oui, c'est toutes des formes d'adoration qui prennent plusieurs visages, plusieurs formes. On s'en fait des petites statues de nous-mêmes, de toutes sortes de visages, et on aime ça se regarder. Et on n'aime pas ça entendre ce que je viens de dire là. Et ça remonte au départ, au jardin, au début, il y a deux humains sur la planète, un tentateur et un Dieu. Et le tentateur dit aux humains, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ce n'était pas tant de connaître le bien et le mal qui était un problème que d'être comme Dieu, d'être Dieu, de prendre la place de Dieu. C'est comme une façon de dire à Dieu, OK, moi je vais décider qu'est-ce qui est correct et ce qui n'est pas correct. Puis cette affaire-là de manger des fruits et de ne pas en manger, là, regarde, nous autres, on va décider pour nous autres. Fait que tasse-toi, Dieu, on va les prendre, les décisions. C'est l'idée de « on va prendre ta place ». Notre vieille nature, dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 17, notre vieille nature, la chair, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est irréconciliable. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit, elle, en a de contraires à ceux de la chair. On ne peut pas recoller les morceaux. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. C'est un peu comme essayer de coller deux aimants dans des pôles inverses. Là. Tu sais, c'est juste impossible. Essaye pas de faire quelque chose de nouveau avec ça. On réalise pas à quel point le fait d'adorer Dieu est un miracle en soi. Si je veux être un adorateur authentique, un adorateur contagieux, je dois être convaincu, mais convaincu profondément de ceci, j'apporte absolument rien et j'ai absolument rien à moi pour adorer Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. On a l'impression qu'adorer Dieu, c'est quelque chose à laquelle on contribue. T'sais? Puis ça, c'est une façon de s'illusionner puis de penser qu'on peut un peu dealer avec Dieu, t'sais? Dans nos offrandes, t'sais, j'offre mon corps en sacrifice. Dès l'instant où je m'illusionne d'apporter quoi que ce soit à mon adoration, je gèle l'adoration. Mon adoration s'appelle religion. C'est comme ça. C'est comme croire que le sacrifice de Jésus, pour que je puisse traverser le voile et adorer Dieu vraiment, avait besoin d'un petit peu de moi. Avouez que ça n'a quand même pas d'allure. Il me semble que c'était bon Dieu ce que tu as fait. Là. Jésus sur la croix, là, wow, mais ça manque un peu de moi-même. Faut-tu être prétentieux quand même? C'est le commutateur de mon adoration, le piton qui met ça en. Appelez ça comme vous voudrez, la conversion, c'est là que ça se passe. Est-ce que la femme s'est convertie là? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il faut qu'elle soit contaminée. La femme samaritaine lui dit, hey, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et ça, c'est intéressant parce que la contamination peut arriver souvent par les personnes que tu t'y attends le moins. Absolument. Et là, c'est par quelqu'un qui est censé être, qui ostracisait les Samaritains. On a parlé beaucoup de ça ces temps-ci. On déboulonne des statues et tout. Bien, les Juifs n'étaient pas fins avec les Samaritains. Et là, elle est surprise, mais son cœur est ouvert. Pour vivre une adoration contagieuse, on doit absolument réaliser que c'est une contamination à sens unique, totalement l'œuvre de Dieu. C'est bon? C'est bon. On continue. La deuxième phase, écoute, est contaminée, c'est l'incubation. On va lire le texte des versets 10 à 15, je vous lis ça. Jésus lui répond, bon, regarde, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », bien, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive, de l'eau là, courante. Là, « Seigneur, lui dit la femme, ben, tu n'as rien pour puiser. Le puits est profond. Veux-tu bien me dire où c'est que tu vas prendre ton eau? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, puis ses fils, puis ses troupeaux? » Jésus lui répond, « Quiconque boira de cette eau aura encore soif, moi, là. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Wow! La femme n'a rien compris. Elle dit, « Ah, mais c'est cool! Fais rentrer l'eau chez nous, puis mets-moi un robinet dans la cuisine. » Non, mais c'est ça. Elle dit, la femme dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, comme ça j'aurais plus soif, j'aurais plus besoin de puiser de l'eau ici. » Ce n'est pas automatique à la conversion qu'on devient un adorateur contagieux. Il y a une période d'incubation qui doit se faire. Et même des fois, pendant cette période-là, on peut même être un mot à la mode asymptomatique. C'est-à-dire, tu sais, oui, je suis contaminé, mais ce n'est pas si évident que ça que je suis un adorateur contagieux. Il y a une espèce de petite danse qui s'installe entre Jésus et moi. Moi, je dis que c'est un tango parce que c'est très collé. Et là, il y a comme une espèce de symbiose qui doit s'installer entre lui et moi. Une définition de l'incubation, une définition scientifique, c'est la période qui s'écoule entre l'infection d'un organisme et l'apparition des premiers symptômes de la maladie. C'est juste que l'adoration, c'est pas une maladie, là, tu sais. Fait que je trouvais que c'était un peu yirk. Mais bon, j'aime mieux l'autre qu'on voit dans le Larousse, c'est la période pendant laquelle un événement... Une création est en préparation et ne s'est pas encore manifestée au grand public. La phase 1 est essentielle. On ne peut pas y échapper. C'est clair. Puis comme on voyait, adorer, c'est comme aimer. C'est pas facile à expliquer parce que c'est relationnel avec Dieu. Il y a un échange là, qui s'installe. Et ça me fait penser à une femme du Nouveau Testament. Cette femme-là, on est dans Luc 7, Jésus arrive chez un pharisien, spécialiste de la loi, il l'invite à venir manger à la maison, Jésus, je vais te poser des questions. Tu sais, on voit le genre, là. Puis, il y a une femme bien connue dans la région pour sa débauche qui arrive. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Elle défonce la porte. Elle a un pot de parfum. Et là, elle s'écrase devant Jésus. Et là, elle pleure. Puis elle pleure. Puis là, elle mouille. Elle parfume. Puis elle mouille avec ses larmes. Puis là, elle essuie ses pieds avec ses cheveux. Et là, le pharisien dit, franchement, si ce gars-là est un prophète, il me semble qu'il saurait que cette femme-là est une pécheresse. Et là, c'est intéressant. Jésus pose la question. Il dit, écoute, j'ai une petite parabole à te conter. Une fois, c'était un gars. Ça part comme ça. Non, c'est deux gars. Il y en a un qui devait 50 $ mettons, à un prêteur, puis l'autre en devait 50 000 $ Lequel des deux qui va être le plus reconnaissant? Non, évidemment, 50 000 $ Ouais, ben regarde-le. Il dit, ça, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. L'incubation, c'est cette période dans ta vie où tu réalises c'est qui Jésus. Mais aussi tu réalises qui est-ce que t'es toi. Tu réalises le fossé immense qu'il y a entre lui et toi. Et c'est ça qui va définir ton niveau de contagion, ta passion. La madame, elle commence en disant le juif. Hein? Comment toi qui es juif me parle? C'est un juif. T'es un méchant, t'es un raciste, puis tu me parles. Et là, c'est pas trop long qu'elle l'appelle Seigneur. Hein? Elle dit, oh Seigneur, donne-moi de cette eau. Là, elle part du juif à, hey, patron, tu sais, Seigneur, t'es quelque chose. Là, tu sais. Et là, il y a une évolution. Puis on voit que, là, tout à coup, Jésus dit, c'est le temps. Verset 16, appelle ton mari. La femme répond, j'ai pas de mari. Wow! Jésus lui dit, tu as raison de dire, j'ai pas de mari, parce que tu as eu 5 maris. Puis ton 6e, ben, c'est pas ton mari. Tu restes avec, tu couches avec, mais tu n'es pas marié avec. Donc, c'est vrai, tu as raison, tu n'as pas de mari. Wow! Seigneur, dit la femme, je vois tes prophètes. Je vois que tu parles au nom de Dieu. Et là, on voit la progression. Tu es un méchant juif, tu es un seigneur, tu es un prophète. En 5 minutes, Jésus est passé du juif oppresseur au seigneur puis au prophète. Le cœur de cette femme a été dévoilé. Tranquillement, elle réalise qui est Jésus, est en face de son péché. Et quand ça nous arrive à nous, là, ben on réagit. C'est normal. On va réagir de toutes sortes de façons. On peut se rebeller. On peut se décourager, on peut s'humilier, on peut être paralysé ou on peut simplement se rapprocher de Jésus. C'est une question importante. C'est qui Jésus pour toi? C'est qui Jésus pour toi? Puis est-ce que ton péché, tu le vois vraiment à travers les lunettes de Jésus ou c'est juste, ben, c'est pas si pire que ça? Tu sais, plus je le connais, Jésus, ben là, j'ai 55 ans, ça fait 30 et quelques années que je suis chrétien. Mais savez-vous quoi? Plus j'apprends à le connaître, plus je le connais, plus je suis émerveillé, plus je m'abandonne à lui, plus je l'adore et plus j'ai le goût d'en savoir encore plus. Parce que j'apprends, en vieillissant, à me connaître. Dieu me dévoile des affaires dans ma vie que, ben, t'es encore là, ça? Et là, je vois tout l'amour de Dieu et ça me bouleverse. Il y a des bons livres. Hein? Le livre là, que Yannick vous a remis, « La sainteté de Dieu » est un excellent livre pour méditer, se laisser l'incubateur mijoter, se laisser convaincre, réfléchir sur la personne de Dieu. La Bible, évidemment. La Bible, c'est le meilleur ouvrage pour comprendre qui est Dieu. Mais c'est aussi le meilleur ouvrage pour comprendre qui on est. Parce que la parole de Dieu est vivante. Hébreux 4, 12. Elle est efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de la moelle. C'est profond, ça. Elle juge les dispositions. Tu sais, ce qu'on ne voit pas, là, ce que nous, on se cache des fois même à nous-mêmes. La parole de Dieu juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Cette parole-là nous parle. Elle nous parle de Dieu et nous parle de nous. Ici, à l'espoir, vous voulez savoir c'est quoi notre couleur? Notre incubateur d'adorateurs, ce n'est pas l'expérience. Et ce n'est pas non plus les émotions. C'est la parole de Dieu. Mais cette parole-là génère une expérience, génère des émotions. On ne met pas la charrue avant un bœuf. On part de sa parole. C'est en droite ligne avec les puritains. Il parlait des affections spirituelles, Jonathan Edwards, dans son traité sur les affections spirituelles. Et c'est comme un flot qui démarre de la parole parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de où? Ça vient de la parole. Et là, cette parole-là nous éblouit. Elle nous parle de Dieu. Elle est vivante. Et là, il n'y a pas juste un monologue, il y a un dialogue qui s'installe. Et là, on est émerveillé par Jésus. Et ça s'approfondit et ça grandit. Et là, je vois qui je suis, tel que je suis. Et tout à coup, Dieu me révèle qui il est, sa grandeur, sa bonté, son amour. Il me convainc de justice par son esprit. Hein? Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Mais en même temps, il me montre comment il m'aime. Son amour infini, un amour intense, un amour passionnel. La passion, là, tu sais, on parle de la passion du Christ, mais c'est que sa passion est là, là, jusqu'à la croix, mais aussi un amour fusionnel. Il n'y a rien, rien dans l'univers qui est allé jusqu'à habiter en moi pour avoir cette proximité avec moi. Moi, je vois ça de deux côtés, là. C'est pour dire qu'il fallait que ça aille cru pour que je puisse comprendre. Mais en même temps, je vois toute l'intention de Dieu et son grand amour. Son désir de proximité avec moi. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, Jean 14, 17. Le monde qu'il ne voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaîtrez car il demeure en vous, il sera en vous. Et ça, là, cette révélation-là va avoir un effet, doit avoir un effet intense sur mes émotions, sur ma raison. Il faut que ça fasse un changement. On n'est pas des ordinateurs. Hein, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Sinon, on est comme des petites machines. Je sais pas, moi, je suis un Trekkies, là. On n'est pas des Vulcains, là, pour ceux qui aiment Star Trek. Là. Ceux qui connaissent ça, ils vont comprendre. Cette révélation de moi va avoir un effet intense. Le consolateur qui rend témoignage de lui. Et en plus, cette parole-là vient profondément, je dirais, cherche le mot, raffiner mon identité. Qui je suis vraiment en lui? Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Wow! Ça, si ça ne vous bouleverse pas, il est temps qu'on arrête de regarder la TV, là, parce qu'on est désensibilisé. C'est bouleversant. L'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis son enfant. Son enfant! Wow! Voyez-vous le chemin de l'incubateur, de l'adorateur? On part de la parole. Cette parole-là suscite la foi, génère la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il y a une rencontre qui s'installe. La parole de Dieu, l'Esprit de Dieu m'expose. Expose Dieu. Génère cet amour-là. Christ en moi. Et là, il y a un émerveillement. Moi, j'appelle ça le « wow ». Le « wow ». Quelque chose de... Essayez de définir ça en mots. Sérieux. Comment tu définis ça en mots, là? Ouais, c'est ça. On va en rester là. Ça dit ce que ça veut dire. Et ce travail-là est constant. C'est ça qui est beau. C'est que ça n'arrête pas. On est transformé de gloire en gloire. Le mot « gloire », là, ici, là, dans la parole, c'est une révélation. Un flash. Et de gloire en gloire, le Seigneur nous transforme. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il nous montre qui on est. Il nous montre qui il est. Et là, ben, wow, notre adoration grandit. Mais il y a un danger. Peut-être, oh non, il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Oui. Il y a un danger. La Samaritaine, un coup bien confronté. Oh, je vois que tu es un prophète. Elle dit, ben écoute, prophète, nous, on adore là. Vous autres, vous adorez à 70 km là-bas. Nous, on prend du Chris Tomlin. Vous autres, vous prenez du Wilson. Nous autres, on prend un bar, puis vous autres, prenez l'autre bar. Nous autres, on est sur ce bord de la rue là. Vous autres, vous êtes sur l'autre bord de la rue. Tu sais, et là, Jésus la remet carrément à sa place. Elle dit, regarde, l'heure vient, elle est déjà venue. Là. On est là, là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est pas juste ça te tente-tu, peut-être. Non, non, en esprit et en vérité. Parce que il y a une raison à ça. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Voulais-tu dire que nous ici, à l'espoir, notre incubateur d'adorateurs, c'est pas l'expérience, c'est pas les émotions. C'est la parole de Dieu. Mais le danger qui nous guette, si à un moment donné, on se met à adorer le livre plutôt que l'auteur. Oui, ça peut arriver. C'est qu'à un moment donné, il n'y a pas d'émerveillement, il n'y a pas de sentiment, il n'y a seulement qu'une quête de connaissance. Ça devient juste intellectuel. Ça devient quelque chose où on se gratifie d'en savoir juste plus sur Dieu, sur Jésus, mais ça ne change rien dans mon cœur. La Bible nous dit que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Se mettre à rechercher la connaissance de Dieu au lieu de la relation avec Dieu, c'est une grave erreur. C'est de virer lentement vers le pharisianisme. Et c'est ce que Jésus dit dans Matthieu, chapitre 15, verset 8, où il parle des pharisiens, il dit « Ce peuple m'honore des lèvres ». Et il cite un passage de l'Ancien Testament. « Mais son cœur est éloigné de moi ». Il dit même au sujet des pharisiens, il dit « Faites tout ce qu'ils vont vous dire ». Ils sont assis dans la chair de Moïse. Fait que, mais faites pas ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils m'honorent des lèvres. Ils chantent des chansons, ils disent les bonnes affaires, ils font les bonnes choses, mais le cœur n'est pas là. Oui, c'est un équilibre délicat et fragile entre l'esprit et la vérité. Et oui, l'adoration, c'est une expérience, c'est intense, c'est faire l'expérience de Dieu. Le Saint-Esprit en moi, c'est quand même pas quelque chose de banal, j'espère que vous trouvez pas ça banal. C'est pas quelque chose d'anodin. Christ en moi, il y a quelque chose d'expérientiel là-dedans. L'amour de Dieu, c'est une expérience forte et profonde. Ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle. Oui, l'adoration est génératrice d'émotions. Oui, l'adoration va virer en chant de louange, en chant de joie, en élévation des mains même. Ça peut être même physique. Occulter la portion spirituelle et relationnelle de l'adoration reviendrait à aimer ma femme juste par logique et par connaissance. J'ai lu ton CV. Oui, je crois que nous sommes compatibles. Ça va. Est-ce que tu veux faire un bout de chemin avec moi dans la vie? Tu sais, ça ne marche pas de même, là. Hein? Ben non. Mais oui, l'adoration, c'est aussi la vérité. Oui, l'adoration est fondée et enracinée, premièrement dans la vérité. C'est ce qu'on a de plus stable et de plus vrai, la vérité. Pour ne pas virer comme cette gang-là à Corinthe, je trouve ça drôle, tu sais, mais c'est pas drôle, 1 Corinthiens 12, 3, où là, il y en avait, là, sous le il était tellement, il se sentait tellement, je dirais, inondé par l'expérience de l'Esprit, supposément qu'il se mettait debout dans l'assemblée puis il criait que Jésus était anathème. Et là, il faut que Paul les reprenne, là. Wow, les petits amis, là. Vous ne comprenez pas d'où ça vient, vous autres, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ça, c'est le danger de l'autre côté. De se mettre à aller juste par l'expérience et les émotions, bien, ça peut déborder de ce bord-là. Mais nous, on n'est pas là, là. Nous, on est plus dans l'autre côté. Notre danger est de virer dans une espèce de relation juste de connaissance. Nous, ici, à l'Espoir, notre incubateur d'adorateurs, c'est la quatrième fois que je le dis, c'est voulu. Notre incubateur d'adorateurs, c'est pas l'expérience, ni comment je me sens. C'est pas les émotions, mais c'est la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu-là va générer en moi une expérience et des émotions. On aurait intérêt à découvrir cet autre côté-là de l'adoration pour enrichir notre adoration, pour qu'il y ait cet équilibre-là entre l'esprit et la vérité. Pourquoi? Parce que c'est les adorateurs que Dieu demande. Et quand Dieu demande des adorateurs, il n'en veut pas juste des demi-adorateurs. Il veut des adorateurs. Ça va être le baromètre de notre adoration. Cette espèce d'incubation-là, c'est le travail d'une vie, hein, en passant, là. Découragez-vous pas, là. Non, c'est pas grave, t'as 70 ans. Il y a encore du temps. Go, Seigneur, révèle-moi à toi. Je veux te connaître. Je veux encore plus te connaître. Je veux être contagieux. Puis c'est la dernière phrase, la contagion. Là, la femme, verset 28, du chapitre 4 de Jean. La femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Hé, venez voir un homme qui me dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? » Ils sortirent de la ville et ils revinrent vers lui. Bon, on sait que cette femme-là devait avoir une certaine réputation dans son patelin. Je veux dire, cinq maris, le sixième, c'est pas ton mari. Tu sais, même si c'est samaritain, c'était mal vu là, de ne pas se marier et de rester ensemble. Fait que tu sais, là, wow, OK, cette femme-là, elle devait sûrement avoir toutes sortes de surnoms. Quand on était dans son dos. Là. Et il y a même plusieurs commentateurs qui nous racontent dans leur interprétation de pourquoi il venait à midi chercher de l'eau quand habituellement il allait le matin quand il faisait pas trop chaud. Probablement qu'elle ne voulait pas vraiment affronter le regard des autres femmes qui allaient puiser de l'eau. Elle a dit, moi je vais y aller à midi, je suis sûr qu'il n'y a pas un chat. Surprise! Il y avait quelqu'un qui t'attendait, puis c'était en plus un rendez-vous. Et là, elle décide de retourner dans sa ville pour dire à tout le monde, « Hey, gang, je viens de rencontrer le Christ! » Ça, c'est évident qu'il y a quelque chose de plus fort que sa crainte des hommes qui a opéré en elle. Et là, ça l'a poussé à dire, « Tant pis ce qu'ils pensent de moi, il faut que je la partage. » Moi, quand j'étais ici, c'est un partage viscéral. Quand j'étais à Longueuil il y a plusieurs années, il y avait un gars qui s'appelait Daniel Gagné. Et là, Daniel, moi, je venais de me convertir. Et là, il m'appelait. « Michel, on s'en va faire l'évangélisation. » Et là, il dit, lui, là, son idée, là, c'était, l'évangile, là, c'est comme du gâteau au chocolat. Un coup que tu y as goûté, t'as le goût que tout le monde en mange. Tu avais un peu l'idée là, qu'il y avait en arrière. Lui, c'était sa façon de définir la contagion. Il y a quelque chose de plus fort que ta crainte des hommes qui opère en toi. John Piper nous dit, si la mission existe, c'est parce que l'adoration n'existe pas. L'adoration, c'est l'évangélisation. L'adoration, c'est un style de vie, c'est une culture, c'est une façon d'être. C'est la motivation pour prêcher l'Évangile, pour que Dieu se fasse un peuple d'adorateurs. Connaître des choses sur Dieu, c'est une chose, mais si cette connaissance-là ne conduit pas à une passion contagieuse, ben c'est juste inutile pour le royaume. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Dieu ne veut pas avoir des petits robots. Dieu veut plus que des disciples. Oui, Matthieu 28 dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Mais il y a quelque chose qui... Tu sais, on ne parle pas des disciples de Bouddha, là, puis pas des disciples d'Hubert Reeves ou d'un autre, là. On parle des disciples de Jésus. Il y a un élément passionnel, là. Il y a un élément d'adorateur. Le disciple de Jésus est un adorateur. Ça va comme de soi. Dieu veut plus que des disciples. Il ne veut pas juste des élèves ou des suiveurs. Il veut des adorateurs passionnés. Un adorateur va toujours suivre celui qui adore. C'est inévitable. C'est clair. Tu vas toujours vouloir suivre les enseignements de celui qui t'adore. Mais ce n'est pas vrai qu'un disciple va toujours adorer son enseignant. Hein? Dieu veut faire de nous une église d'adorateurs contagieuse. Et c'est son plan. Au verset 35, Jésus regarde ses disciples parce qu'il dit, « Hey, t'es en train de parler avec elle, voyons donc. » Et ils ne comprennent pas trop. Et là, Jésus leur répond exactement ce qu'il faut répondre, comme d'habitude, comme toujours, c'est Jésus. Il dit, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Hein? Ben moi, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont déjà blancs pour la moisson. C'est déjà le temps. Arrêtons de nous morfondre et de nous décourager en disant, « Ah, les Québécois ne veulent pas entendre parler de l'Évangile. Ah, les blablabla. » Non, non. Il y a du monde. Il y a des millions de personnes qui attendent l'Évangile. Le Québec a besoin d'une église passionnée par l'adoration. Il y a besoin d'une église qui est enracinée et fondée, amoureuse de la parole de vérité. Le Québec a besoin d'une église qui va se laisser diriger par son esprit. Une église en feu pour lui qui va s'abandonner dans une obéissance joyeuse. Comment réconcilier la joie et l'obéissance? C'est par l'adoration. Tout à coup, quand tu te mets à adorer, l'obéissance est joyeuse. Rien de moins. Et là, on arrive à l'apothéose du passage d'aujourd'hui. Verset 39. « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et il y en avait paix. C'est intéressant de voir que là, la contamination est venue de la femme. Mais là, ils ont rencontré Jésus. Et le verset 42 est intéressant. Ils disent à la femme, « Écoute, c'est plus à cause de ce que tu nous as dit qu'on croit là. » Parce que nous l'avons entendu, hein, ils ont incubé. Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Ça y est, c'est la pandémie. La Samarie est contaminée. C'est... Il n'y a pas de secret. Ce matin, on a vu 3 phases. 3 phases pour être des adorateurs contagieux. Une première phase qui est cette contamination-là, qui est en fait la conversion. Seulement Jésus peut initier l'adoration. Pense pas que tu peux amener un petit morceau ou un atome d'adoration. Non, non, c'est un abandon complet. Un abandon complet envers Jésus. Mais il y a une incubation pour arriver à ça. Il y a un équilibre qui doit s'installer entre l'Esprit et la vérité, la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Ça se passe comme ça, l'équilibre. Pour arriver à une contagion où là, ma coupe déborde. Elle déborde de Jésus. J'ai juste le goût d'en faire bouffer à tout le monde. Comment on applique ça dans les faits? Bien, cette semaine, les capsules pastorales, c'est moi qui vais les faire. Et il va y avoir 5 capsules sur Éphésiens 5. On va parler de la plénitude du Saint-Esprit, de l'onction. J'invite les musiciens à venir me rejoindre. Venez-vous-en, les amis. On va parler de la plénitude, on va parler du chant et l'adoration. Pourquoi le chant et l'adoration sont tant liés? Comment on s'entretient et qu'on obéit dans un contexte d'adoration? Comment on s'abandonne à Dieu de tout notre cœur? Parlons d'affection, d'expérience, de contemplation, d'émotion. Bien, le chapitre 5 d'Éphésiens 5 nous parle de tout ça. Et je vais en profiter pour vous dire qu'on a un groupe Connexion qui se veut être un incubateur d'adorateurs. Peut-être que tu as envie d'incuber l'adorateur. Le groupe Connexion s'appelle Paradoxe. Et si tu veux en savoir plus, tu as juste à m'appeler, me communiquer, me texter, me Facebooker, peu importe. On est là et on veut démarrer ce groupe-là pour incuber des adorateurs contagieux. Et on va prier. Seigneur, ce matin, on a ajouté une petite goutte de plus dans notre cœur d'adorateur pour se rapprocher encore plus de toi. En fait, ce n'est pas qu'on n'est pas proche de toi, c'est que souvent, c'est nous qui avons l'impression que tu es plus loin, mais tu es toujours là, toujours à l'intérieur. Merci, Seigneur, de ta présence. Instruis-nous, montre-nous qui tu es. Rends-nous des amoureux de ta parole pour qu'on aille puiser ta personne, un miroir sur notre âme, et que ça ensemble vienne nous éblouir devant ton amour. Fais-nous des adorateurs contagieux à Longueuil, au Québec, jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est en ton beau nom, ton nom merveilleux, Jésus, que nous te prions. Amen.